Chers frères et sœurs, les lectures de cette messe ont touché et même réchauffé mon cœur, car elles m'ont fait reprendre conscience de quelque chose que, dans le quotidien, j'oublie si facilement, à savoir qu'il n'existe pas seulement le regard humain, regard toujours limité, bien étroit même souvent, que l'on peut poser sur le réel, sur la réalité de notre existence, sur l'histoire des humains et sur la vie de l'Église, mais qu'il existe encore un autre regard qui, de fait, envisage d'une autre manière cette même réalité si fragile, si touchée par l'incohérence, les égarements et la souffrance. Au-dessus de notre regard purement humain, il existe un regard plus vaste. En lisant la première lecture de cette messe, certes elle était lue en allemand, mais je m'y réfère quand même, lecture tirée du livre des Chroniques. En méditant cette lecture qui évoque une période bien difficile et douloureuse dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie du peuple choisi par Dieu, des moments marqués surtout par les infidélités et les endurcissements des chefs religieux et politiques du peuple et ses conséquences affligeantes, à savoir l'exil babylonien. En lisant et méditant ce passage de la Bible, une des pages les plus jeunes de la Bible hébraïque, je me suis demandé comment aurais-je moi-même rapporté ces faits douloureux dont parle l'auteur de ces pages, à savoir le chroniste. N'aurais-je pas tout simplement fermé, pour ainsi dire, le couvercle, en enfermant du même coup tout et tous dans la prison d'un regard de jugement impitoyable et de désespoir sans perspective. Or, et c'est ce qui m'a fait du bien, l'auteur biblique rend attentif, certes discrètement et pourtant réellement, à une autre manière de voir, tout en évoquant des faits déconcertants que traverse son peuple, il fait transparaître à travers son texte qu'il existe un regard qui ne se laisse pas déterminer, limiter par le mal que peuvent commettre les humains. Le regard auquel le chroniste rend attentif, c'est un regard qui n'a pas sa source en ce que font et ne font pas les hommes, mais c'est un regard qui provient d'une autre source, d'une source intarissable, qui jaillit librement et abondamment, inépuisablement. Un regard libre de toute trace de découragement et de désespoir. Un regard capable de faire renaître l'espérance, de renouveler le courage même des plus accablés. En effet, le Dieu qui a choisi son peuple, le peuple le plus petit de tous les peuples, comme dit le livre du Deutéronome. Ce Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a dit à Moïse « Je suis celui qui suis », offre toujours sans s'épuiser, sans se lasser. La possibilité d'un nouveau départ, la possibilité de se reprendre, la possibilité d'une nouvelle vie. Car son regard procède de quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais qui est plus grand que toutes les misères des humains, quelles qu'elles soient. Ainsi, le regard que Dieu pose sur nous, sur chacun et chacune de nous, procède d'un amour qui n'a pas de limite, d'un amour qui sait créer du neuf et faire advenir l'inattendu, qui sait créer une nouvelle vie là où l'on n'ose plus rien attendre. Et c'est ce qui fait l'émerveillement de saint Paul quand il écrit, dans notre deuxième lecture, à l'église d'Éphèse, « Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. » On pourrait ainsi dire qu'en face de l'abîme de la misère des humains, et combien de fois nous vérifions cette misère, face à cet abîme se dresse un autre abîme, l'abîme de la miséricorde de Dieu. En face d'un regard enfermé dans la prison de ce qui ne va pas, en face de ce regard qui tend à se durcir et à condamner tout, face à un tel regard qui, comme des petits serpents à la morsure brûlante, peut se glisser en notre propre cœur, voilà que se dresse le regard de la miséricorde pour illuminer tout d'un nouveau souffle. Or, cette miséricorde qui, pour ainsi dire, s'est frayée un chemin à travers la longue et souvent si douloureuse histoire de l'humanité, afin de se révéler de plus en plus, cette miséricorde qui ne connaît pas de limite, a voulu se révéler sans limite, se révéler infiniment. C'est pourquoi le Père de toute miséricorde nous a donné, livré son propre Fils, et il l'a donné infiniment. C'est ainsi qu'en Jésus, son Fils, il a accepté librement et sans limite de prendre sur soi la mort la plus humiliante. Comme l'écrit saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais ainsi, Dieu nous a non seulement montré à l'excès, mais donné à l'excès sa miséricorde. Or, il faut aller plus loin, car Dieu ne brûle pas seulement de nous révéler et de nous donner sa miséricorde à chacun de nous, de la donner aussi aux plus pauvres pécheurs, à la plus pauvre pécheresse, mais il a voulu nous toucher par sa miséricorde, pour justement aller plus loin avec nous, pour aller avec nous plus loin, avec chacun de nous. C'est-à-dire, il a voulu faire entrer en nous, en notre propre cœur, sa propre miséricorde, afin de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, en cœur assoupli, adouci et vivifié par l'Esprit de miséricorde, en prenant tout simplement, divinement, sur lui la dureté de notre cœur, en la subissant librement. Il désire nous donner ainsi en échange la souplesse, l'intelligence et la miséricorde de son cœur à lui. Cependant, il ne s'agit ici nullement d'un automatisme pieux, car la liberté divine ne contraint personne. Au contraire, la liberté du cœur divin ne se donne qu'à qui la reçoit librement. Or, c'est cela, notre part, accueillir l'amour de Dieu librement. Mais comment, me demandez-vous? Par notre foi. Non par de belles formules ou de belles théories, mais en nous appuyant, en prenant appui fermement sur lui, notre rocher, en exposant à son regard notre pauvreté, notre fragilité et incohérence, et surtout la dureté de notre cœur. J'aimerais ne jamais m'arrêter de le redire. Dieu n'a pas peur de nos péchés et de notre dureté. C'est nous qui en avons peur. Et c'est pourquoi nous nous cachons derrière notre dureté. Alors, quoi d'autre, surtout en ce temps de conversion, que de livrer à lui, notre Dieu et seul salut, tous ceux qui, comme on le dit, clochent en notre cœur et en notre vie.